Alors j'imagine que ces témoignages doivent susciter un certain nombre de questions de votre part. Donc c'est l'heure. On a une dizaine de minutes, une quinzaine maximum, pour répondre à vos questions. Monsieur devant.
Oui, Philippe Guinard, ARS Île-de-France. Des questions qui ne se veulent surtout pas des contrepoints, mais juste des éclaircissements par rapport à la compréhension du dispositif que vous décrivez. Je ne sais plus qui l'a dit avant. Le cas de force majeure, c'est quoi en chiffres, premier élément ? Parce que tout le monde a l'impression de ne faire ça qu'en cas de force majeure, c'est ça que je veux dire. Deuxième interrogation, parce que aussi on lit, on entend des polémiques sur le sujet, est-ce qu'il y a un mode compensatoire en termes de molécules ? Et troisième question, est-ce que pour l'équipe soignante, il y a des prescriptions de pratiques sportives particulières pour faire face ?
Alors, première question, la force majeure, c'est quoi ? Comment vous la définissez ? Et je crois que vous avez posé la question des chiffres aussi, hein, de savoir effectivement...
Moi, je dirais que la force majeure, c'est justement quand on a essayé de contenir le patient par les moyens soignants, de parole, etc., et bien entendu d'un traitement et d'un traitement ajusté. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'hésite pas à recourir à des fortes doses de neuroleptiques sans dépasser, voilà. Mais moi, je pense qu'il est plus souhaitable de donner un médicament que d'attacher un patient.
Alors, juste pour illustrer ma réponse, je vous rappelle qu'à Garancières, au centre Ginette Amado, il n'y a pas de contention, il n'y a pas de chambre d'isolement. Et pourtant, nous recevons, c'est le passage obligé, j'ai envie de dire, c'est une position que nous avons fixée au niveau institutionnel, c'est un passage à Garancières avant de décider l'hospitalisation dans notre pavillon à l'hôpital Sainte-Anne. Ça veut dire que dans ce centre, il y a non seulement les patients qui se présentent d'eux-mêmes et les patients qui sont accompagnés par leur famille, les patients qui peuvent être adressés par les médecins généralistes, les collègues installés en ville, mais également les patients adressés par le CPOA et par les SAU. Et parmi ces patients, il y a heureusement des patients qui sont d'accord avec les soins, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas et qui sont adressés sous contrainte. Soit en SPDT, soit en SPPI. Jamais en SPDRE, ces patients-là sont adressés directement à l'unité d'hospitalisation. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il n'y a pas de filtre en amont de Garancières. Les SAU sont informés de notre existence. Ça fait plus de 30 ans que nous existons. Donc les réseaux existent et il y a une crédibilité parce que lorsqu'on nous appelle, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, il y a toujours quelqu'un pour répondre et pour essayer de travailler l'indication du passage à Garancières. Alors, pour ce qui est du cas de force majeure, j'avoue que j'ai un peu du mal à définir ce que c'est qu'un cas de force majeure, parce qu'on a à chaque fois l'impression, quand on reçoit un patient, qu'il faut lui offrir le plus d'attention possible. Et puis, surtout, ce qui caractérise notre pratique, c'est le don de temps. Voilà. Alors, un patient peut être agité dans un premier temps. Il y a un accompagnement de patients agités que l'équipe doit connaître, enfin, de par sa pratique, son expérience. La présence du médecin est requise à ce moment-là. Le recours à une prescription peut être tout à fait nécessaire, soit administrée par voie buccale, soit par voie injectable. L'injection peut être considérée comme un acte d'accueil dès lors qu'il s'agit de soulager quelqu'un en grande souffrance. Ce même patient agité peut se calmer dans un deuxième temps. Et le travail d'accueil peut se faire de façon beaucoup plus confortable, ce qui peut diminuer le risque d'une nouvelle agitation. L'important, c'est ce don de temps. Voilà. Donc évidemment, ça peut être très fatigant pour les soignants, mais c'est particulièrement bénéfique pour le patient à qui, évidemment, on peut, dans un nombre important de cas, même pour des cas qui peuvent ressembler à des cas de force majeure, éviter la contention et l'isolement thérapeutique, d'autant que nous n'en avons pas.
Ça veut dire que c'est-à-dire que dans l'année, vous ne faites de contention ?
Jamais.
C'est 100%.
C'est 100% sans... Alors, d'accord. Pour ce qui est de garantir, c'est 100% sans contention ni isolement. C'est ça mérite effectivement. Vous avez fait cette précision.
Madame Masson.
Pour donner une précision, qu'en effet, les personnels n'ont pas de formation sportive spécifique. Je pense que d'abord, c'est la contenance psychique qui est priorisée. Ensuite, la contenance physique, en effet. Mais je crois que tout infirmier choisissant de travailler en psychiatrie, on sait qu'à un moment donné, c'est un outil, la contenance physique, et qui nécessite pas... Il y a des manières de s'y prendre, bien évidemment, des conduites à tenir, mais ça ne nécessite pas de formation spécifique.
Sauf interne. Bien, d'autres questions? Alors, devant, on commence par... Où est-ce qu'il y a le micro? Ici, on commence devant? Et puis ensuite, monsieur, et puis monsieur.
Merci de vos interventions.
Ça marche. Si, pas mal.
Ah oui, comme ça va mieux. Merci de vos interventions. C'est plutôt une réflexion qui suscitera peut-être des réactions. Je suis surpris qu'en psychiatrie, la prise en charge dépend à ce point du médecin ou du soignant en face de qui on tombe. Et on a parfois l'impression que c'est un peu aléatoire. Et du coup, je me demande pourquoi il n'y a pas plus de conférences de consensus qui diffusent des bonnes pratiques dans ce genre de domaine.
Il y en a, vous dites.
Il y en a, sur l'isolement contention, il y en a une. Qui reprend précisément quelles sont les indications, quelles sont les non-indications. Après.
Et du coup, quand on se met du côté, alors je suis directeur d'hôpital, mais quand on se met du côté du patient, pourquoi est-ce qu'on en est encore à constater cette variabilité des pratiques
Déjà, je pense que les patients... Il y en a un certain nombre qui expérimentent différentes équipes, mais quand on connaît une équipe, on n'a pas de comparatif. Et puis, je pense que surtout, ils sont dans un état dans lequel ils peuvent pas... Ils sont quand même en état de vulnérabilité. Donc, au moment où on les attache, où on les isole, je crois qu'ils ne peuvent pas en dire grand-chose. Et a posteriori, alors ça, je ne sais pas ce qui fait. Mais enfin, je dirais, ce qui a fait qu'il y a eu une loi qui est sortie il y a quelques mois, c'est quand même justement des familles de patients qui ont alerté les autorités sur des pratiques qui ne paraissaient pas tout à fait normales.
Juste pour rajouter, c'est vrai que je crois que la psychiatrie de secteur, en tout cas, est vraiment faite de son histoire, de chaque secteur, de par son histoire et sa culture. Et la conception des soins. C'est vrai que souvent l'organisation des soins, les conceptions des soins ont été portées par certains chefs de service, comme le rappelait le docteur Marcel, et je pense que ça en découle, et que ce que les secteurs vivent aujourd'hui découle aussi d'une histoire, d'une culture, ce qui fait en effet la différence aussi de pratique.
Monsieur ?
Oui, Vincent Thomas, directeur PSM de la Sarthe. Je crois qu'il faut attacher de l'importance au premier mot de l'interview du docteur Marcel tout à l'heure, à savoir que une partie de l'explication des différences que l'on peut constater dans le recours aux pratiques d'isolement et de contention tient à l'organisation des services, au choix d'organisation que font leurs médecins responsables et notamment au choix d'orientation des ressources humaines. Et quand le docteur Marcel explique qu'il n'y a plus que 26 lits d'hospitalisation pour deux arrondissements parisiens, c'est bien dire qu'il a décidé de consacrer l'essentiel de ses ressources humaines aux prises en charge alternatives et qu'il peut donc disposer de ressources humaines en quantité suffisante pour avoir un taux d'encadrement de chaque patient, un taux de présence auprès de chaque patient hospitalisé nettement supérieur à ce qu'on peut faire quand on a encore beaucoup trop de patients hospitalisés et qui mobilisent quantitativement beaucoup trop de professionnels du soin. Et donc, en termes de densité de personnel auprès de chaque patient, on ne peut pas assurer le même niveau. Et donc, je crois qu'il est important pour nous, directeurs, d'entendre cela. C'est vraiment à ce stade-là que ça se joue, d'abord. Après, formation, état d'esprit, idéologie, autres techniques de soins, etc. Bien sûr, mais la première chose, c'est de mettre les bonnes ressources là où il faut et qu'il y en ait une densité suffisante.
Voilà.
je ne parle pas, et je fais exprès, mais je souhaite pas être polémique aujourd'hui, mais je ne parle pas des différences qui existent, qui sont considérables entre les hôpitaux de France, entre les hôpitaux psychiatriques de France, mais même au sein d'un établissement, la question se posant, c'est en ces termes qu'il faut la débattre.
Donc c'est entre autres l'histoire de fléchage de budget, alors c'est, si on comprend bien. Monsieur Huitton, je crois, d'abord, puisque vous aviez demandé le micro, et puis ensuite monsieur dans le fond. Ah pardon, parti où le micro? Et puis monsieur dans le fond ensuite, apportez le micro déjà dans le fond, on gagnera quelques secondes précieuses.
Je vous remercie. André Huitton, oui, je voudrais souligner que dans l'article 72 de la loi santé sur l'isolement contention, il est bien indiqué qu'il ne s'agit pas de recourir à ces pratiques en cas de force majeure, mais en dernier recours. C'est-à-dire que c'est subsidiaire par rapport aux autres modalités de prise en charge. De même, d'ailleurs, que l'hospitalisation sous contrainte au titre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est subsidiaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Bonjour. Merci pour cette précision.
Jean-Luc Chassagnol, Sainte-Anne, directeur. Je voudrais rebondir sur deux interventions. La première, c'est sur effectivement les pratiques différentes. Et j'insiste là-dessus. Je crois que ces pratiques différentes d'un service à un autre ou d'un hôpital à un autre, sur le long terme, ne sont plus admissibles pour les familles et les patients. C'est-à-dire qu'il va bien falloir un jour ou l'autre évaluer quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques. Et que je pense que ça nuit beaucoup à la psychiatrie, cette absence de réelle évaluation des pratiques. La deuxième chose, c'est, je rejoins pas le collègue qui vient de parler, c'est sur l'attribution des moyens. Je crois que l'attribution des moyens, on est bien là justement dans un jeu où elle doit être définie collectivement dans les directoires. C'est donc ni une chose de directeur, ni une chose de médecin, mais c'est vraiment, quelque part, le point clé du directoire. Et je crois qu'effectivement, on doit orienter vers l'ambulatoire. Et je crois que ça, c'est des sujets qui doivent être à l'ordre du jour systématique du directoire. Bon, je vais prendre un exemple tout bête, c'est un peu ancien, mais sur des grèves très dures qu'il y a eu une époque à Sainte-Anne, avec le président de la CME, on s'était entendu pour fermer l'intra et laisser ouvert l'extra. Je veux dire que ça ne peut qu'être que des décisions collectives. Donc j'insiste là-dessus et je me retourne aussi vers les ARS. Je pense qu'on cherche sans cesse comment rééquilibrer les disparités qui existent entre établissements. Je crois qu'on tourne autour du pot, hein. Il y aurait 2-3 choses faciles à mettre en œuvre. Et par exemple, favoriser les DAF des établissements qui favorisent l'ambulatoire. C'est que comme ça qu'on arrivera à mettre fin à certaines hospitalisations très largement abusives.
Bien, on avance dans la réflexion. Ce sera la dernière avec vous. Et puis ensuite, on enchaîne avec la présentation qui était prévue. Oui, et on continuera la discussion cet après-midi, je vous le rappelle.
Alors, moi, je m'appelle Jacques Martin. Donc, je suis directeur des soins de la qualité dans un CHS en Loire-Atlantique. Alors, mon intervention, ce n'est pas non plus polémique, hein, pour me resituer. Donc, moi, j'ai commencé à travailler en psychiatrie, de formation soignante, au début des années 80. En 80, donc, moi, quand j'ai commencé dans les services, on m'a présenté les camisoles et puis les sangles de contention comme des pièces de musée. Hein, c'est vrai qu'à l'époque, on ne les utilisait plus du tout. Hein. Aujourd'hui, en 2016, dans tous les services, il y a des kits de contention. On a des lycées quasiment, des CSI. Hein. Donc voilà, je voulais rebondir sur ce qui vient de dire là, puisque depuis 2 jours, je vois quand même grandir un malaise chez moi en tant que directeur des soins. Enfin, il avait bien commencé avant, bien sûr, hein, mais parce qu'on ne mesure pas non plus la conséquence des mesures politiques sur les politiques de santé quand même. Parce que je suis entièrement d'accord pour avoir commencé à militer dès les années 80 sur la psychiatrie communautaire, sur l'engagement qui était le nôtre au sein des CCAS, des CMS, des collectivités locales, hein, sur la politique de la ville, sur la politique de l'habitat. Et puis progressivement, on est revenu sur des politiques plus de psychiatrie. Alors pourquoi ? Aujourd'hui, il faut quand même dire un mot sur les politiques et les mécanismes de financement de nos établissements. On ne peut pas ne pas l'évoquer. Alors je trouve ça curieux que ce soit le directeur des soins qui aborde ce sujet-là. Mais bon, mécaniquement, quand même, on voit bien que notre plateau technique est constitué uniquement d'hommes et de femmes. Va diminuer et diminue d'année en année. Parce que mécaniquement, nos DAF, elles diminuent. Donc moi, je suis un partisan aussi du virage ambulatoire. J'ai milité là-dessus pour ça, et j'y participe. Mais à un moment donné, on ne peut plus, quoi. À un moment donné, quand mécaniquement, on sait qu'à la fois, il faut revenir à l'équilibre, à la fois, il faut amorcer le virage et poursuivre le virage ambulatoire, mais qu'en même temps, nos DAF, elles diminuent, sachant que 82% de notre budget... C'est du titre 1, c'est du titre du personnel, mais comment est-ce qu'on peut faire ? Moi, je suis aussi d'accord sur la question de la contenance psychique, bien sûr, ça fait partie du discours que je tiens tous les jours auprès des équipes soignantes. Mais à un moment donné, on n'y arrive plus, quoi, tout simplement.
Merci d'apporter ce genre de contribution en début de discussion plutôt qu'en fin, ça, parce que visiblement, il y a un certain nombre de gens qui auraient souhaité réagir, mais on ne va pas pouvoir, pour des questions de temps, des contraintes, toujours, on a en permanence. On va féliciter et applaudir nos intervenants. Et remercier, je vous en prie,